Micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant.
Tous les premiers et troisièmes dimanches du mois,
on vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque au racisme, aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de la lutte, que de la lutte.
De midi 30 à 14h
sur Kaleidoscope
97 FM
et en podcast
sur letamis.info.
Bonjour.
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 Et bien, bienvenue sur le plateau de Micro-ondes, l'émission contre le racisme, les frontières et les injustices sociales. On vous retrouve comme dimanche, tous les dimanches à midi et demi sur Radio Kaleidoscope 97 FM et on est ensemble jusqu'à 14h. Alors, bah, comme toujours, avec nous, on a des invités, on va entendre des petits reportages, de la musique. Et donc, aujourd'hui, on accueille en première partie d'émission Sandrine et Perrine. Bonjour à vous deux. Merci
Bonjour.
D'être avec nous.
Bonjour.
Qui font partie des ateliers d'entraide à la publication. Et avec elles, on va revenir sur la journée Médiatisons nos luttes qui a eu lieu le samedi 24 à Rugé, donc 24 janvier. Et ensuite, février, oui merci. Ensuite, on accueillera Anne qui n'est pas encore sur le plateau, qui est une habitante de la maison forestière La Marquise sur la ZAD de Roibon. Et avec elle, on parlera un peu de la situation des ZAD actuellement, après l'expulsion de Bure, toute l'incertitude qu'il y a à Notre-Dame-des-Landes. Et on reviendra bien sûr avec elle sur la situation à Roibon. Et comme d'habitude, on finira avec des brèves, une chronique et l'agenda. Alors, pour commencer, du coup, cette journée Médiatisons nos luttes, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler, dire de quoi il s'agissait?
Je t'en prie.
Ok, et eh ben ouais, c'était une journée, c'était toute une journée, donc le 24 février, de 14h jusqu'au bout de la nuit. Enfin, on a dû quand même s'arrêter vers minuit et demi. Et du coup, en gros, on voulait un petit peu inviter différents collectifs en lutte sur Grenoble. Que ce soit des collectifs, des personnes qui se mobilisent autour de leur réalité, autour de luttes spécifiques. Et voilà, qui voulaient bien venir en parler avec nous et aussi dégager la problématique de comment on fait pour médiatiser nos luttes, comment on fait pour se faire connaître et comment on fait pour avancer sur les problématiques qui nous concernent.
Et puis il y avait aussi un enjeu de faire se rencontrer les gens qui sont en lutte et aussi et les gens en dehors de ces luttes aussi, pour qu'il y ait de la communication.
D'accord. Et du coup, cette initiative, elle est partie de votre collectif, le collectif d'entraide à la publication. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de ce collectif, depuis quand il existe, qu'est-ce que vous y faites?
Ouais, alors ce collectif, il existe depuis à peu près un an. Et en gros, c'est des ateliers, donc comme le nom le dit, ateliers d'entraide à la publication. Donc ça va être des moments pour se former et partager un petit peu nos expériences et nos savoir-faire sur comment écrire un article sur un site internet, que ce soit nos sites internet locaux. Donc il y en a plusieurs actuellement. Sur Grenoble. Du coup, comment on fait pour écrire un article, comment on fait éventuellement pour faire un montage audio, comment on fait pour faire un montage vidéo. On peut aussi parler de sécuriser ses pratiques au niveau de la publication de vidéos, d'audio, etc. Par exemple, comment on va faire pour flouter les vidéos, flouter les photos, enlever les métadonnées. Voilà, parce que suivant ce qu'on publie, etc., on peut aussi avoir parfois des petits problèmes avec la justice.
Tu peux expliquer ce que c'est les métadonnées?
Les métadonnées, c'est ce qui sont, enfin, c'est des informations qui sont raccrochées au document et qui permettent de savoir qui et sur quel ordinateur a créé le document.
D'accord. Donc pour des raisons de sécurité, d'anonymat et tout ça face à la répression, c'est des choses qu'il faut penser.
Ouais. Ok. Et du coup, ces ateliers, ils ont lieu tous les derniers vendredis du mois. Au local de Solidaire qui est situé au 12 bis rue des Trembles. Et c'est de 16h30 à 19h30.
Ok. Eh ben super, on vous retrouve après l'écoute d'un petit reportage parce que donc Micro-ondes, on était aussi présents et présentes à cette journée-là et ça a été l'occasion de faire un peu un plateau radio. Voilà, et de ça, on est sorti un petit montage qu'on écoute tout de suite.
Alors bonjour, bienvenue à ce plateau micro-ondes. C'est un plateau du coup enregistré en public à l'occasion de la journée Médiatisons nos luttes qui a lieu Rugé, au 6 Rugé. Et donc on reçoit tout un tas de personnes qui font partie de différents collectifs autour des médias, autour des luttes et qui vont un peu nous présenter ce qu'ils et elles font.
Micro-ondes, c'est une émission qui a été lancée en 2015, à la rentrée 2015, novembre 2015. On a été pendant un certain temps sur News FM, et maintenant on émet sur Radio Kaléidoscope, du coup le 97 FM. Et c'est une émission du coup vraiment qui vise à médiatiser les luttes de l'agglomération grenobloise sur les questions principalement d'injustice sociale, de frontières et de racisme, et avec une volonté au maximum de donner la parole aux personnes concernées par les luttes et par les discriminations ou les injustices qu'elles subissent. Micro-ondes, du coup, c'est le premier et le troisième dimanche du mois, avec des rediffusions les deuxième et quatrième dimanche du mois, et c'est donc de 12h30 à 14h, donc voilà, vous pouvez l'écouter chaque dimanche sur 97 FM et en podcast aussi sur letamis.info, voilà.
Je représente le collectif Duplidocus. Donc c'est un collectif d'impression DIY libertaire qui permet d'imprimer des affiches, des brochures, des fanzines, des tracts, voilà, plein de choses, faire de la micro-édition via un risographe. Donc c'est un duplicopieur en grande quantité. Donc ça permet d'imprimer en grande quantité et à faible coût. C'est une machine qui permet de faire des impressions en A3. Et en couleur, c'est le même prix que de l'encre noire. C'est 1,50€ pour les 100. Et donc, en fait, le système, le principe, c'est de faire une couleur, un passage, un tirage, et voilà. Donc, c'est pas de l'impression numérique. Ça se passe au 102, donc c'est le 102 rue d'Alembert. On est une petite dizaine. Je pense qu'on est assez visible. Après, on a effectivement une adresse, c'est duplidocus@resop.net. Cric, c'est un média qui a été créé l'année dernière, qui a un an là. Je vais vous lire un peu du texte d'intention. Donc le discours médiatique dominant est écrasant, présent partout. Il nous assaille de ces analyses qui entretiennent, entre autres, le sexisme, le nationalisme, le racisme et notamment l'islamophobie, et cherchent à dresser les dominés et les exploiter les unes contre les autres. Et donc ce média, qui est donc un média d'autopublication, donc où les personnes vont publier, considère que sans les personnes qui sont concernées par ces luttes, ça devient assez logique que certaines réalités et certains mouvements sociaux restent très peu reliés. Il y a un essai de privilégier la diversité des supports de communication, audio, vidéo, images, écrits. L'idée, c'est de se réapproprier l'information et visibiliser les luttes qui sont invisibilisées par les médias de masse, mais aussi peu visibilisées dans les médias alternatifs à Grenoble.
Alors nous, on est l'équipe de Parloir Libre. On a emprunté l'idée à une émission de radio de Marseille avec le même nom. Parloir Libre, c'est quoi le principe de l'émission ? C'est un espace de parole sur l'antenne pour les proches de prisonniers, les prisonniers et les prisonnières. Du coup, l'idée, c'est que ce soit un espace de parole vraiment pour les personnes concernées par la prison, qui vivent la prison au quotidien. Et le principe de base, c'est passer des messages et des dédicaces aux personnes à l'intérieur. Voilà, donc téléphoner, passer un message, passer une dédicace musicale. Il y a des appels, mais on a aussi un Facebook, Parloir Libre, qui permet de pouvoir laisser des messages tout le temps, qu'on diffuse à l'antenne ensuite. Une émission de radio qui existe depuis 2 ans et demi maintenant. On était à News FM avant. Nous allons donc être à Kaléidoscope bientôt. Du coup, on est en stand-by depuis juillet. Et là, on va reprendre, si tout se passe bien, en mars. 22 mars, première émission.
Alors, il y a un média qui s'appelle Ici Grenoble. C'est un média qui propose de rassembler et de partager des informations donc qui sont souvent mal connues sur l'agglomération grenobloise et ses environs.
Donc sur ce site internet, les informations elles sont organisées en 4 rubriques. Il y a un système de cartographie pour localiser les services liés à la vie quotidienne, les associations et les dynamiques collectives aussi qui se passent près de chez soi. Il y a un agenda qui propose des événements avec des rencontres, films, des ateliers, des concerts, etc. Et il y a une base de données d'infos pratiques qui concerne, enfin, et qui est sous forme de questions-réponses. Et donc, il y a 250 questions-réponses et plus de 300 structures consultables par thème et par mot-clé. Il y a aussi des publications, des reportages, des interviews, des revues de presse ou des dossiers spéciaux qui sont diffusés sur ce site. Et en complément donc du site internet, il y a donc ici Grenoble réalise aussi des agendas muraux et des cartographies à afficher dans les espaces publics privés ou professionnels et des guides papier des alternatives de Grenoble qui sont aussi édités. L'ambition d'ICI Grenoble, c'est de construire petit à petit une encyclopédie pratique et politique locale et que ce soit un outil qui favorise les découvertes, les rencontres et les engagements.
Je suis dans une association qui essaie de médiatiser un peu des luttes. C'est le Centre d'information interpeuple, qui est une association qui existe depuis très longtemps. Notamment, nous avons un journal qui s'appelle Interpeuple, qui paraît chaque mois, dans lequel on essaie de faire l'écho des différentes luttes qui sont menées ici et là-bas, parce que pour nous, c'est très important de lier le ici et le là-bas, c'est-à-dire qu'à la fois ici, à Grenoble, en Isère, mais aussi en France, mais aussi dans le monde, parce qu'on pense que c'est un même système qui est exclu ici et là-bas, soit par rapport aux migrants, que ce soit par rapport à ce qui se passe en Syrie, que ce soit ce qui se passe par rapport à, la France-Afrique, enfin, c'est très très vaste, hein. L'Amérique latine aussi, les luttes des peuples, dans le monde entier. D'autre part aussi, nous avons dès le début, hein, parce qu'on existe depuis 1980, on a eu des liens avec RKS, avec Radio Kaleidoscope, avec News FM un peu suivre Radio Grisier Vaudan. On a fait venir par exemple un Indien Mapuche qui est venu du Chili pour faire des stages d'initiation à une radio libre qui est venue à Radio Grisier Vaudan et aussi à d'autres radios. Et d'autre part, on a aussi un site dans lequel notamment aussi sont annoncés, il y a une sorte d'agenda militant, on annonce dans le mois qui va venir un peu toutes les rencontres, les initiatives, les rassemblements qui ont lieu à Grenoble. Donc on est un peu au service, on peut dire, des luttes, on s'en fait l'écho. Et donc pour nous, il y a un lien à la fois à notre engagement et aussi comme une quête de résonance de toutes les actions, luttes qui sont menées dans la région. À la fois, il y en a quand même plusieurs d'entre nous qui sommes quand même implantés ou qui font partie de différents comités, d'une part. Parmi nous, au total, on est bien présents dans 7 ou 8 un peu comités de lutte très différents. Et d'autre part, on reçoit quand même, maintenant qu'on est pas mal connu, on reçoit beaucoup de messages, d'annonces, et on nous demande d'annoncer tel rassemblement, telle initiative. C'est par une implantation qui dure depuis très longtemps, qui fait qu'on est quand même un peu à l'écoute de très nombreuses initiatives qui sont menées dans la région grenobloise.
Du coup, je suis là pour représenter un peu un site internet qui s'appelle Le Tamis, qui est un site internet qui a 4 ans, je pense, maintenant, qui, du coup, a pour objet de relayer les luttes et les alternatives qui se passent sur Grenoble et qui a différentes parties. Il y a une partie de répertoire de tous des assos, des collectifs et, du coup, qui essaye de visibiliser toutes les luttes à différentes échelles. Donc, ça va aller de l'asso très, très institutionnel à des collectifs très informels, mais on essaye de balayer tout un panel, pas tant parce qu'on est forcément d'accord avec tout ce qui se passe dans ces structures-là. Enfin, on essaye de faire un panel le plus large possible pour essayer de croiser un peu les différents milieux et les différentes personnes sur Grenoble. Ça va aussi avec une partie que nous on appelle info pratique, où c'est sous forme de questions. C'est vraiment une entrée via la vie quotidienne de tiens, j'ai mon vélo à réparer, où est-ce que je peux aller? à je voudrais apprendre à faire de l'informatique. Donc c'est toutes ces questions, voilà, c'est plein de questions de la vie quotidienne qu'on essaye de répertorier et puis d'orienter du coup vers les structures que nous on a eu, dont on a eu vent. Il y a également une partie agenda où soit c'est des luttes ou des événements que les gens nous postent sur le site et du coup nous demandent de relayer, soit c'est des choses des informations qu'on récupère à droite à gauche pour alimenter l'agenda actuellement. Et puis il y a une dernière partie sur le site qui est une partie médiathèque où là l'idée c'est plus de faire un peu une archive, de rendre un archivage possible pour ceux que ça intéresse. Des différentes luttes grenobloises dans le sens où on a un serveur qui est conséquent, où on a de la place et tout ça, et du coup de dire mais si vous avez pas de site internet, si vous avez pas de lieu où stocker vos archives d'émissions de radio, d'affiches, de tracks, de ce que vous voulez, et ben ça peut être un lieu où les choses sont publiées et restent disponibles dans le temps grâce à cet outil là. Voilà, en quelques mots, ce site internet-là. Et donc, du coup, l'adresse internet du site, c'est www.le-tami.info.
Donc, Indie Media Grenoble, c'est aussi un média alternatif qui est sur le web. Donc, c'est un collectif, c'est un groupement de personnes qui a pour but de permettre la diffusion d'une information libre et autonome. Et le collectif est ouvert à toutes celles et ceux voulant s'y investir et qui acceptent le fonctionnement et la charte. Donc les objectifs de Indie Media Grenoble sont de permettre la diffusion des informations traitant des luttes et des mouvements sociaux à Grenoble et dans sa région. Et donc ils revendiquent la volonté de promouvoir d'autres regards que ceux des médias dominants et de se faire l'écho des idées et des luttes sociales généralement ignorées ou déformées. Le deuxième grand objectif, c'est de court-circuiter les mécanismes traditionnels de la production médiatique, notamment basés sur le sensationnalisme et en divisant les gens entre journalistes et consommatrices d'informations. Troisièmement, de constituer un outil d'information indépendant des pouvoirs économiques et politiques. Voilà. Ensuite, de critiquer les questions de propriété intellectuelle. Tous les documents qui sont publiés sur le site sont en copyleft. Et enfin, le dernier objectif, c'est de ne pas mettre en danger les individus par l'information. Et donc, le collectif tient à respecter le choix des personnes en lutte de ne pas être filmées ou photographiées. Il refuse de diffuser des informations qui peuvent compromettre des militantes. Il refuse de collaborer avec les autorités. Voilà.
Pour présenter Dégenré. C'est une émission féministe qui existe depuis 15 ans. Et
elle est sur Radio Kaléidoscope 97 FM, et une radio associative locale de Grenoble. Voilà. Et sinon, cette radio, elle fait partie d'une plateforme qui s'appelle Radio Rageuse. C'est un site internet sur lequel il y a plein d'émissions féministes qui peuvent poster leurs émissions. Et cette plateforme, elle est francophone, mais internationale aussi. Du coup, il y a des émissions belges, suisses. C'est le deuxième mercredi du mois, plus le quatrième mercredi du mois.
Eh ben, on arrive au terme de ce plateau radio. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé. Merci à la foule qui nous a écoutés très attentivement.
J'allume ma télé, je vois un petit gars bien sapé. Il me dit que ça craint, que dehors faut pas y aller, que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité alors, je dois rester chez moi. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Bon ben, je me dis qu'il fait froid. Il a peut-être raison, il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. La France a peur.
Toujours en direct sur Radio Kaléidoscope 97 FM pour l'émission Micro-ondes avec nos invités Perrine et Sandrine pour nous parler de la journée qui a eu lieu le 24 février, médiatisons nos luttes. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu revenir sur cette journée que vous avez participé à organiser et nous dire un peu quel bilan vous en avez fait, si tout ce que vous imaginez pour cette journée s'est passé ou s'il y aura encore des choses à faire.
Bah clairement, il y aura encore des choses à faire. Après, on est assez contents et contentes parce qu'il y a quelques collectifs, là, comme on a pu l'entendre dans le montage, qui sont venus, qui ont parlé un peu de ce qu'ils faisaient. Ça a permis des rencontres et des échanges entre ces collectifs-là. Là où le bilan il est un peu moins positif, c'est que bah vraiment dans les ateliers d'entraide à la publication, il y a une volonté de s'ouvrir, ou en tout cas d'ouvrir, de faire en sorte que les médias locaux soient accessibles à des personnes qui luttent, qui galèrent, qui peut-être s'organisent par rapport à leur réalité, à leur quotidien, pour enfin se mobilisent pour essayer de faire bouger les choses, et qui n'ont pas toujours accès aux médias locaux, que ce soit la radio comme ici, que ce soit les sites internet, la presse, papier. Et du coup, la volonté des ateliers d'entraide à la publication et la volonté de cette journée, c'était aussi de permettre la rencontre avec des personnes un peu plus éloignées des médias. Et ça s'est pas trop fait, mais du coup, ça vaut le coup de continuer. Et puis, potentiellement, aussi, il y avait une discussion qui était proposée derrière. Et là, c'est pareil. En fait, la discussion, on a été un petit peu déçu du contenu qu'il y a pu y avoir. Il n'y a pas eu beaucoup de fond. Mais là, on se dit que c'est un petit peu notre responsabilité aussi, parce qu'on avait prévu des discussions en petits groupes avec différentes thématiques, du coup, sur les rapports aux médias dominants, le rapport aux réseaux sociaux, comment on utilise les réseaux sociaux pour parler de nos luttes et de nos combats, comment on va contrer le discours dominant des médias de masse, etc. Quelles sont nos stratégies, etc. Et en fait, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, on a décidé de faire plutôt une discussion en plénière qu'on n'avait pas beaucoup préparé. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas réussi vraiment à dégager des thématiques, à dégager des problématiques. Et la discussion, voilà, ça a été un petit peu une discussion de comptoir, on va dire. Et on n'a pas eu beaucoup de fond. Mais voilà, on a eu des retours positifs derrière. Et avec une envie, en fait, des personnes qui nous ont sollicité pour qu'on recommence un petit peu ça. Du coup, c'est peut-être ça le bilan à retenir et la perspective à avoir, c'est de se dire, ok, en fait, c'est des moments. En tout cas, il y a des personnes qui sont en demande de ça, et potentiellement aussi pour toucher des personnes un peu plus éloignées de tout ça et qui auraient envie la possibilité, faut continuer nous-mêmes à en parler, à médiatiser ça, etc.
Ouais.
Et maintenant, vous, comment vous envisagez la suite justement de cette journée du 24?
Pour l'instant, on essaye de récupérer déjà de la journée. Bon, ça fait une semaine, on a déjà bien récupéré.
Parce qu'il y avait une deuxième partie de débat qui était un peu plus épuisante et où il y avait beaucoup de musique aussi.
Ouais, c'est ça, c'est qu'il y avait une soirée festive, quoi, après, à Ruget. Et c'était une soirée festive en soutien au CRIC. Du coup, le CRIC, c'est un site internet local qui existe depuis à peu près un an. C'est ça, à peu près un an.
Ouais, à peu près, un peu plus.
Et voilà, et qui avait un peu besoin d'argent pour
exister, fonctionner.
C'est ça. Et dans les ateliers d'entraide à la publication, du coup, il y a aussi une aide pour publier sur le site CRIC, parce qu'il faut s'inscrire, etc. Que c'est pas toujours le site le plus accessible comparé, par exemple, à Indie Media.
D'accord. Ouais, il faut s'inscrire, il faut rentrer des identifiants, enfin, et il permet aussi de participer à la modération, mais il est plus compliqué que pour Indie Media où en fait on n'a pas forcément besoin de créer un identifiant pour pouvoir poster des choses. Par contre, du coup, l'intérêt de ce site-là, ce qui permet par rapport aux autres sites habituels, c'est de mettre en ligne d'autres choses telles que des images, des vidéos, des sons, des choses comme ça.
Et des émissions de radio, on espère bientôt.
Et des émissions de radio.
Pouvoir retrouver micro-ondes sur CRIC.
Moi du coup j'étais à la journée le 24 février. Et c'est vrai que, en tout cas j'ai trouvé qu'il y avait un truc super positif qui s'était passé à ce moment-là. C'était précisément la rencontre entre les médias et les envies d'interaction. Je veux dire les occasions de discuter entre des personnes. il y a à Grenoble une chance, quoi, c'est qu'on ait vraiment beaucoup de médias différents entre les émissions de radio, les sites internet, les journaux, etc. Et du coup, c'est plutôt positif. Mais je trouve une conséquence un peu, si on n'a pas des occasions de rencontre et d'échange vraiment, une des conséquences un peu néfastes, c'est de se voir comme des concurrents, entre guillemets, quoi, qui viennent choper la faible part d'audimat militant qui existe. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper bien et avec l'envie de continuer. Nous, je sais que, par exemple, on a commencé aussi à tisser des interactions entre des émissions, enfin entre différents médias, et j'ai trouvé ça super positif. Et sinon, je me posais juste une question. Pour le coup, en effet, c'est cette rencontre avec les associations. Il y avait des associations qui aussi sont intervenues sur le plateau radio. On n'a pas gardé les sons ici, on voulait juste présenter les médias. Mais en l'occurrence, j'ai remarqué qu'à ce moment-là, les associations, soit ont leur Facebook, soit ont leur propre blog, soit ont... en fait, quand elles communiquent et quand elles écrivent un communiqué de presse, c'est pratiquement plutôt pour l'envoyer sur des médias dominants que sur des médias alternatifs. Et voilà, ça pose en effet la question du travail, du chemin qu'on a à faire, entre guillemets, mais aussi les collectifs, quoi. Enfin, comment continuer cette démarche?
Ouais, du coup, pour rebondir en tout cas sur les ateliers d'entraide à la publication, du coup, il y a vraiment cette volonté justement d'apprendre ou de se transmettre, etc., de se former et de s'auto-former sur l'utilisation des médias locaux, quels qu'ils soient. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment pas une mise en concurrence dans les ateliers d'entraide à la publication. On sait qu'il y a par rapport aux sites internet, en tout cas locaux, il y a des sites internet qui vont être plus faciles d'accès par rapport à d'autres. Mais en tout cas, à un moment donné, c'est la personne qui vient, qui veut publier sur tel ou tel site et qui ne sait pas forcément comment le faire, elle va pouvoir avoir accès à ces informations, quel que soit le site. Du coup, là, c'est vraiment pas un travail de mise en concurrence. Et après, sur la pluralité, ben, y a eu des textes qui sont sortis là-dessus et ça a commencé à en discuter justement un petit peu samedi. Je pense qu'il y avait un petit peu deux points de vue un petit peu opposés. Il y avait des personnes qui disaient « Ah, il faudrait qu'un seul site d'information locale et ça nous permettrait... »
D'avoir tout centralisé.
Ouais, c'est ça, la centralisation, c'est la santé, là, d'un coup. et puis voilà, et d'autres personnes qui défendaient plutôt « La pluralité, c'est la santé ». Et justement, chaque média local, chaque site, chaque radio a sa couleur. Et c'est important de préserver ça et que les personnes, suivant ce qu'elles font et comment elles ont envie de lutter, etc., qu'elles puissent avoir le choix de où elles ont envie de médiatiser ce qu'elles font.
Ouais. Et sinon, après, dans le reste de la journée, il y avait aussi l'après-midi. Mais l'après-midi, c'était plus... il y avait un goûter qui avait été organisé par les habitants de la rue Jay. Et là, c'était en soutien à la rue Jay.
Et du coup, bah peut-être ce lieu, c'est pas n'importe quel lieu non plus. Donc pour en savoir un peu plus, on peut écouter une capsule, c'est-à-dire un format très court, qui nous explique ce que c'est la rue G.
Le 6 rue G, c'est un bâtiment qui est réquisitionné l'année 2016. Moi, je me suis présenté au collectif de l'Assemblée des Mal-Logés. C'est un collectif des associations qui ils ont réquisitionné ce bâtiment. Et du coup, il y a des familles qui habitent dans cet endroit-là. Il y a des multinationalités là, à cet endroit-là. Il y a des familles, la plupart, c'est des familles demandeurs d'asile qui n'ont pas trouvé des solutions pour l'hébergement. Et on s'organise là, dans ce lieu. Il y a des réunions des habitants, il y a des réunions des associations qui viennent là. Et globalement, c'est... le bâtiment est fait pour des gens mal logés, qu'ils n'ont pas trouvé généralement les solutions pour l'hébergement, ou des gens qui sont exclus de leur hébergement.
Et j'avais sinon une petite question un peu, c'était, du coup, tout à l'heure, vous parliez éventuellement du fait que c'était parfois un peu compliqué, sur Cric, par exemple, qu'il fallait une petite formation, ou en tout cas qu'il fallait se créer un identifiant, etc. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est des freins techniques, justement, qui fait que les gens ne vont pas forcément sur des médias alternatifs pour publier les choses, mais vont plutôt sur Facebook ou sur des outils qu'ils connaissent déjà par ailleurs? Enfin, voilà, est-ce que c'est une réponse à ça ou pas?
Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent qui privilégie certains sites à d'autres parce que justement c'est compliqué de publier sur ce site-là, parce que ça implique de créer du coup des identifiants, de s'en rappeler, ça implique une organisation et pour avoir aussi déjà essayé de publier dessus, il faut penser à beaucoup de choses, des rubriques, enfin mettre des mots-clés, tout ça, c'est un peu compliqué en fait à faire d'une part, puis d'autre part j'ai l'impression que aussi ce qui fait que les gens se tournent plus vers les médias dominants entre guillemets, style, enfin en tout cas qui utilisent des médias comme Facebook, ce genre de choses, c'est que ils veulent être sûrs d'avoir un impact large. Je pense qu'il y a aussi beaucoup ça à prendre en compte dans le fait qu'ils privilégient des médias, enfin leurs propres moyens de communication.
Ouais, qu'on appelle les médias grand public et c'est pas un hasard.
Ouais. Ouais, c'est ça. Et après, en même temps, moi, je suis un peu ambivalente sur cette question-là, si on a encore un petit peu de temps.
Vas-y.
C'est que sur Facebook, en réalité, on doit aussi se faire des identifiants, etc. Et que, ben, moi, par exemple, j'utilise pas du tout Facebook parce que je trouve que c'est une usine à gaz, quoi. Enfin, moi, j'y comprends pas grand chose, mais parce que je m'y intéresse pas non plus. Et j'ai pas envie de m'y intéresser. Et du coup, pour moi, c'est aussi, à un moment donné, c'est quoi, nos cultures d'appartenance, là, un petit peu, et du coup, vers quels médias on va se tourner, etc. Et que des fois, ben, pour aller vers d'autres choses, il nous faut, un petit peu chercher de l'information, etc. Enfin, je sais pas, un peu rencontrer des gens, etc. Et du coup, les ateliers d'entraide à la publication, par exemple, sont là pour ça aussi, de dire, ok, c'est aussi une possibilité. Sans dire, tu dois choisir Facebook ou tu dois choisir tel média, etc. Tu choisis bien ce que tu veux, mais voilà, c'est quoi la palette de médias auxquels tu peux avoir accès plus ou moins facilement. Et à un moment donné, c'est quoi les outils, les ressources dont tu as besoin pour utiliser ces médias. Voilà. Et puis bah, Facebook, ils ont beaucoup de moyens. Ils ont aussi, à un moment donné, comment ils font en sorte aussi d'avoir beaucoup de gens chez eux, c'est qu'ils savent faire parler d'eux. Et du coup, je pense que nos propres médias locaux, c'est aussi ça, c'est comment on fait parler de nous, comment on médiatise nous-mêmes nos propres médias.
J'ai envie d'ajouter que il est vraiment important de construire des alternatives à ces médias. Pour l'instant, c'est peut-être pas porteur ou voilà, c'est pas massif, mais tôt ou tard, ces médias, de toute façon, il y a déjà un gène, il y a déjà quelque chose qui les gens même qui pratiquent. Moi, j'ai une page Facebook et tout. Ben, tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde se méfie. Il y a des trucs qui se passent qui sont pas clairs. Il y a des comptes qui sont ouverts à votre nom sans que vous sachiez. Et donc, tôt ou tard, il y aura quelque chose qui va faire que les gens vont prendre conscience que voilà, c'est hyper dangereux. Et donc, c'est important dès aujourd'hui de construire cette alternative qui va se crédibiliser avec le temps. Mais il faut surtout pas céder sur les principes, sur des choses comme ça, pour que justement, ben, ça paraisse au moment venu comme une vraie alternative. Et moi, je pense qu'il faut tenir dans la durée, quoi. Ceux qui tiendront joueront ce rôle d'alternative sérieuse et crédible, quoi. Je pense que c'est ça votre enjeu.
Bon, en tout cas, merci beaucoup hein, à vous deux d'être venus pour présenter vos actions et puis revenir sur cette journée. C'est vrai que comme bah, souvent des bonnes discussions, ça nous laisse avec plus de questions que de réponses. Et c'est aussi ce qu'on s'est dit à Micro-ondes, du coup que les médias, ces choix des médias, comment on les utilise, on reviendrait sans doute dessus dans une prochaine émission. Est-ce que vous voulez, avant qu'on se quitte, nous redonner les rendez-vous pour participer aux ateliers d'entraide à la publication?
Oui, c'est tous les derniers vendredis du mois, de 16h30 à 19h30, au local de Solidaire, 12 bis rue des Trembles. Et je crois que c'est... On peut y venir avec le tram A, arrêt La Bruyère. Et c'est en face de Auchan, maintenant, l'ex-Simpli.
Voilà. Avec ces supermarchés qui changent.
C'est ça, après on s'y retrouve plus. Et surtout, un grand merci à vous aussi d'être venu le jour même animer ce petit plateau radio, voilà, d'avoir pris du son, d'avoir fait tous ces petits montages et de nous avoir invités aujourd'hui.
Ouais, merci.
Bah, avec plaisir. Alors, on se retrouvera bientôt peut-être pour une prochaine émission sur les médias à voir. En attendant, merci encore et on va se quitter pour ce premier plateau avec la chanson de Synapse, Zone Grise. Et ensuite, on se retrouvera avec une nouvelle invitée.
Dans
l'ombre des puissances, dont tant de peuples subissaient une misance. La permanence du colonialisme cause des souffrances. Pas une goutte d'essence, que toujours une goutte de sang. Tant de masses désignées pour subir nos noirs desseins. Il est temps que l'homme blanc dessoule, calme son zèle. On voit comme Icare en train de se brûler les ailes. Il a déjà brûlé les îles, volé le poudre et le sel. Salit la terre d'ébène, du ciel jusqu'au sol. Visage pâle, c'est cru pourvoyeur de progrès. Il le revendique, ce qu'il a fait de bon gré. Fait encore, prend l'Afrique pour laboratoire. Croit guérir ses malheurs en propos incantatoires. Fait le deuil, j'ai vu dans le fond de l'œil de mes pères la raison de ses écueils. Racisme subsiste, vous savez déjà, ce n'est pas négligence, je suis pas dégagé de ce putain de constat.
Gardez la main, il me semble. Mais il est couché!
Histoire de France qui n'est pas dans les manuels, ni les mémoires, ni les consciences. On peut pas nier le phénomène. Tout témoignage me manque pour appréhender le monde actuel. Plus nos aïeux nous mentent dans les récits et les micelles. Faut enlever le masque, des phrases qu'Élysée, nos massacres. La fin est politique, l'imposture humanitaire le cache. Spectacle, dans la cour des miracles, ce musée des horreurs, mec, c'est l'Afrique qu'on fabrique. Le peuple qu'on fractionne, des cultures qu'on falsifie. Faut que les trafiquants d'ethnisme, ça donne au banditisme. Marionnette des puissances, suppôt de France-Afrique. Car c'est en face que l'on pille notre essence et notre fric. Foutu paillette qui retombe en poussière. Ces êtres complices qui me foutent en colère. Un cri d'un silence inouï m'a sorti ma léthargie. Maintenant me hante, on répète que j'ai assez fui. Maintenant j'ai honte, mais je remonte la pente. Je fais les comptes, plus que jamais les médias mentent. Ils nous racontent ce qu'ils veulent et qu'on veut bien entendre. Tout est fait, tout est écrit, pour qu'on puisse pas comprendre.
Je suis issu d'un pays des plus impliqués dans la souffrance des peuples africains. Dans le soutien au bourreau, je peux pas l'oublier. Je suis issu d'un pays des plus impliqués dans la souffrance des peuples africains. Dans le soutien au pouvoir, je peux pas l'oublier.
Allons-y, parlons-en, parlons un peu d'histoire. Parlons du présent, je t'invite.
L'autre côté du miroir.
Pour ça et vite, le 20h, toute la masse média devient reporter. Cherche ton, ne te dis pas. Il parle d'indépendance et de liberté. Mais l'économie tient le monde en captivité. Il parle de paix, souvent aussi de démocratie. Mais c'est par la guerre et l'illusion qu'ils garantissent la suprématie. Autant se le dire, la France n'a pas lâché son empire. Et dans ce monde, rares sont les pays libres. Tête saute si tu parles trop. Virez-moi ce président qui ne collabore plus. Ou aider les rebelles, mais qu'on ne l'entende plus. D'autre côté du miroir, c'est chantage et lutte d'influence, pression. C'est dans tous les journaux qu'on vend leur désinformation. Encore des noirs qui se tuent, comme d'habitude. L'Occident consterné, comme d'habitude.
Je suis issu d'un pays des plus impliqués dans la souffrance des peuples africains. Dans le soutien au bourreau, je peux pas l'oublier. Je suis issu d'un pays des plus impliqués dans la souffrance des peuples africains. Dans le soutien au bourreau, je peux pas l'oublier.
Nous sommes toujours sur micro-ondes, sur Radio Kaléidoscope 97 FM. Et là, on retrouve une nouvelle invitée. Bonjour Anne.
Bonjour.
Donc toi, tu es une habitante de la ZAD de Roibon. Et du coup, tu vas un peu nous parler de ce qui s'y passe, mais aussi plus généralement, c'est ce qui se passe un peu au niveau des ZAD, parce que l'actualité en ce moment est assez dense.
Bonjour. Merci d'être venu avec nous au plateau de micro-ondes. Roibon, de ce que je crois, en tout cas, il y a des personnes qui habitent là-bas depuis à peu près 3 ans, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Pourquoi du coup avoir fait une ZAD à cet endroit-là? Est-ce que tu peux revenir un peu sur l'origine de la lutte?
Depuis 2007, il y a le projet de construction d'un center park, donc un énorme centre de vacances avec des petits cottages, des petites maisons dispersées dans la forêt. Il y en a 1000 qui sont prévues, plus une grosse bulle tropicale, donc vraiment une bulle, je sais pas comment décrire ça autrement, une cloche qui est censée être chauffée à 27 degrés toute l'année, avec des activités aqualudiques, un restaurant, des choses comme ça.
Et 27 degrés, c'est juste pour mettre une piscine dessous ou...
C'est ça.
D'accord, ok.
Donc des center parks, il en existe déjà plusieurs en France. Et en 2007, Pierre et Vacances, donc l'entreprise qui construit les center parks, qui est détenue par Gérard Brémond, depuis 2007, Pierre et Vacances a commencé à approcher la commune de Roibon via donc le maire en disant oui voilà alors en fait vous avez un taux de chômage qui est absolument faramineux, vous êtes une région désertée, nous on va pouvoir vous aider, regardez, on va construire un super centre de vacances et tout ira bien et vous gagnerez de l'argent. Et en fait, ils ont commencé à approcher le maire. Il y a des tractations, ça a été prouvé. Il y a des tractations qui se sont faites en sous-main avant que ce projet-là soit rendu public. Et donc quelques mois après que le maire ait dit dans son bureau bien fermé à Pierre et Vacances, oui, on va construire le Center Park, ils sont mis à annoncer ça dans la commune et à dire il y aurait peut-être le projet de construction d'un Center Park. Commençons à voir. Et à partir de ce moment-là, il y a quelques personnes qui ont commencé à se mobiliser, à écrire des tracts. Il y a une partie des tracts qui ont été écrits depuis ce moment-là qui sont réunis dans un livre qui s'appelle Chambard dans les Chambarans, qui a été publié au Monde à l'envers. Il y a une association de défense des Chambarans qui s'est montée, qui s'appelle Pour des Chambarans sans Center Park, ce qui s'abrège en PCSCP. Le projet a mis un peu de temps à démarrer au niveau concret. Et en 2014, à l'automne 2014, les travaux ont commencé. Donc la zone avait été achetée par Pierre et Vacances à un prix très très bas, parce que c'était 200 hectares de forêt qui ensuite, une fois que la vente a été conclue, ont été passés en constructible.
Normal. Mm-hmm. Comme ça, ils ont vendu pas cher, j'imagine, c'est ça? Enfin, les terrains ont été bradés, quoi.
Oui. Et en automne 2014... À Roibon, les travaux commencent et à Sivens, Rémi Fraisse est tué. Et donc là, il y a une espèce de grosse ébullition qui commence à se faire où il y a plein de gens dans plein de groupes qui se disent bon, là, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Et là, juste à côté de là où on habite, il y a des travaux qui commencent pour un grand projet inutile et imposé. Et ben, on va faire quelque chose.
Et simple question, du coup, donc, quand il y a la vente, etc., c'est ce que tu appelles les travaux, du coup, c'est donc de la déforestation. Enfin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est ça, c'est des travaux de défrichement qui ont démarré à ce moment-là. Donc, il faut savoir aussi que la commune, à ses frais, avait déjà commencé à aménager les infrastructures autour, les routes et tout, pour accueillir le Center Park, qui n'était pas encore construit. Qui était à peine en train de commencer. Donc la commune avait déjà engagé de l'argent là-dessus. Donc c'est l'argent de l'État qui a payé les infrastructures autour du Center Park. Et les travaux ont commencé donc par du défrichement. Il y a 45 hectares de, si je ne me trompe pas, 45 hectares de forêt qui ont été coupés sur 220.
Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que cette manière d'engager le projet avant même qu'il soit vraiment complètement décidé, ça fait que notamment la commune qui avait déjà engagé beaucoup d'argent dessus était forcément favorable au Center Park parce qu'elle avait déjà mis tous ses ronds dedans, entre guillemets. Oui, pareil pour les forestiers aussi, j'ai cru comprendre qu'ils avaient abattu les arbres et qu'ils n'ont même pas pu récupérer leur bois et du coup qu'ils voulaient aussi que le projet ait lieu pour récupérer. Enfin, est-ce que je me trompe ou pas?
Non, c'est ça. Alors, je ne me souviens plus, j'ai peur de dire une bêtise, mais il y a une émission d'enquête télévisée, ça doit être Capital ou quelque chose comme ça, où la journaliste mettait le maire devant ces faits-là, de dire bah en fait pour accueillir le Center Park, la commune s'est endettée de 5 fois sa dette initiale. Donc Roibon fait partie des communes les plus endettées de France. Et après oui, ce qui se passe pour tous les forestiers, c'est qu'en fait ils achètent le bois sur pied. Eux, ils le coupent. Donc, en fait, c'est eux qui mettent de l'argent au départ. Ils le coupent, ils le transforment et après, ils le vendent. Et du coup, leur salaire, ils se le font là-dessus. Mais sauf que comme les travaux ont été bloqués par les manifestations et que la zone a été occupée, en fait, ils n'ont pas récupéré le bois. Et c'est aussi un choix de dire, ben non, en fait, tant que cette zone-là est occupée, on ne laissera pas de nouveau des gros engins de chantier rentrer sur zone, parce qu'en fait, on ne sait pas, finalement, est-ce que ce sera vraiment pour récupérer le bois ou est-ce que vous allez nous la faire à l'envers. Et je crois que, d'une certaine manière, c'est aussi de dire, ben oui, votre bois, il est là, assumez, en fait, que vous avez participé à ce projet qui au départ, est illégal puisqu'il n'y avait pas toutes les autorisations. Enfin, vous avez commencé, vous avez participé à un chantier alors que vous n'aviez pas les autorisations nécessaires. Et cette responsabilité, elle vous concerne aussi.
Oui, il y avait aussi... je voulais te poser aussi une question sur les recours qui ont été lancés à plusieurs reprises, je crois, sur le fait que quand même c'est une zone humide et qu'en France, la tendance maintenant, c'est de bétonner un peu toutes ces zones humides qui ont un rôle écologique essentiel.
Oui, alors au niveau juridique, donc c'est l'association PCSCP et la FRAPNA qui mène et l'association des pêcheurs de la Drôme qui mène les batailles juridiques. La FRAPNA, donc c'est la Fédération Rhône-Alpes pour la protection de la nature et il y a le A à la fin, je ne sais plus. Et donc il y a plusieurs procès en cours. Il y avait un recours contre la vente, on appelle ça la vente à vil prix des terrains. Pour dire non mais les terrains ils ont été vendus pour rien du tout, la commune s'est faite avoir, on conteste ça, mais qui pour l'instant est en stand-by. Il y a eu très récemment une victoire au Conseil d'État, la FRAPNA disait à l'ONF, donc l'Office National des Forêts, la FRAPNA disait attendez, l'ONF là, vous rendez pas publiques les fiches techniques justement qui concernent la zone humide. Qui concerne cette forêt-là. Donc nous, on veut avoir accès aux fiches techniques. Il y a une grosse bataille, une longue bataille juridique, et où finalement le Conseil d'État a dit « Bah oui, en fait, l'ONF, vous êtes un organisme d'État, on a accès à ces documents-là, normalement, donc soit vous les donnez, soit ça va mal se passer. » Donc ça, c'est passé complètement inaperçu, mais c'est quand même une grosse victoire de dire « Attendez, les administrations publiques ne peuvent pas faire leur business dans leur coin et faire le jeu des politiques, c'est pas possible. » Et donc, du point de vue de l'occupation, le procès sur lequel on est axé, c'est donc le procès qui va arriver dans pas longtemps au Conseil d'État, qui dit que, je crois que c'est sur la loi sur l'eau, j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que c'est sur la loi sur l'eau, enfin en tout cas ça concerne les zones humides. Il y a eu un procès au tribunal de Grenoble qu'on a gagné, il y a eu un procès en appel au tribunal de Lyon qu'on a gagné, et donc maintenant c'est porté au Conseil d'État. Le Conseil d'État il va juste dire oui, les précédents procès ont été bien faits ou mal faits. Et donc si le Conseil d'État dit les précédents procès ont été bien faits, ben on reste sur la décision du tribunal d'appel de Lyon qui dit que voilà, les travaux ne peuvent pas se faire vu le projet qui est présenté par Pierre et Vacances. Et si jamais le Conseil d'État dit non, les procès ont été mal faits, en fait, on revient à nouveau au tribunal de Lyon.
Mais donc, dans la première hypothèse, en cas de confirmation en Conseil d'État, ça me semble être une victoire définitive ou non?
Oui. Plutôt, mais il y a des choses à discuter, c'est vraiment sur plein de plans différents.
J'en suis pas sûr. Parce que la technique habituelle dans ce cas de figure, c'est de représenter un projet recalibré en fonction, ouais. etc. Mais... C'est jamais un point final, quoi. Ils se servent, en fait, des blocages pour voir à quel niveau ils vont recalibrer le projet pour qu'il puisse passer.
Mm-hmm. Mais là-dedans, il y a tout un paquet de choses. C'est que l'autorisation de défrichement est valable jusqu'à fin mars. Donc en fait, fin mars, à partir du 31 mars, ils n'auront plus le droit de défricher, de toute façon, parce que c'est plus la saison, et puis aussi parce que l'autorisation n'est plus valable. Donc ils vont devoir refaire une demande d'autorisation de défrichement. Pour représenter un projet, ils vont devoir refaire des études, sachant que déjà, il y a aussi des recours qui disent que les études ont été mal faites, parce que normalement, c'est sur un cycle biologique, donc un an, printemps, été, automne, hiver. Et là, les études ont été faites 3 mois par-ci, une semaine par-là. Donc en fait, ça, c'est... pas justifié, donc il faudrait déjà un an d'études au minimum pour pouvoir représenter un projet pertinent. Et ensuite, même si on gagne, ce qui a l'air de plutôt bien se profiler, j'ai oublié de dire aussi, Pierre et Vacances a 2 ou 3 autres projets de Center Park aussi en France. L'association PCSCP a prouvé que, en fait, économiquement, Pierre et Vacances étaient complètement dans le rouge et qu'ils contractent des nouvelles dettes pour solder les anciennes. Donc en fait, ça me paraît improbable, même s'ils pouvaient construire le Center Park à Roibon, ça me paraît improbable qu'ils continuent d'essayer de le faire parce que sinon ils vont se casser la gueule. Mais par contre, nous, ce qui peut nous inquiéter aussi, c'est que même si on gagne, le terrain continue d'appartenir à Pierre et Vacances. Et donc, en fait, je pense qu'il va falloir qu'on garde l'œil dessus 10 ans, 15 ans. Enfin, déjà, il y aura des recours juridiques qui disent on veut annuler la vente et qu'en plus, il y ait un préjudice qui soit acté pour la commune et que du coup, Pierre et Vacances doit de l'argent à la commune, rendre le terrain et en plus, lui doit de l'argent. Mais comme le terrain est passé en constructible, en fait, dans 10 ans ou 15 ans, ils peuvent le garder sous le coude et saucissonner ça et le vendre pour faire des villas.
Exactement. Oui, faire n'importe quoi dessus.
C'est ça.
On parlait du coup un peu de zone humide. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et les implications juridiques, puisque c'est un peu là-dessus que j'ai l'impression qu'on s'est gagné une partie de la bataille juridique, en tout cas contre Pierre et Vacances.
Eh ben, ça c'est ce qui peut nous relier aussi de façon plus large justement avec Sivens, avec Notre-Dame, c'est que ces espaces-là, c'est des espaces sur lesquels il existe un sol très spécifique et une flore très spécifique qui retiennent l'eau et qui vivent j'ai pas la définition exacte des zones humides en tête, mais du coup c'est des milieux biologiques spécifiques qui sont aussi nécessaires pour faire fonctionner tout ce qu'il y a autour de la zone humide. C'est important que ce point d'humidité là il existe, parce que sinon les régions autour, elles seront en manque d'eau, même si elles sont pas classées comme humides. Et là c'est ce qui est intéressant, ce qui est en train de se passer avec Roibon au niveau juridique, c'est de donc à Roibon c'est sur un plateau et c'est ce qu'on appelle un aquifère, donc c'est une espèce de grosse éponge qui prend toute l'eau, qui la filtre et qui est capable de redistribuer de l'eau potable ensuite dans les vallées en contrebas, notamment les vallées de la Drôme. C'est pour ça que les pêcheurs de la Drôme se sont constitués comme partie dans les procès. Et là, il y a un peu un espèce de glissement intéressant qui est en train de se faire, où en fait, on ne dit plus, on veut protéger une zone humide parce que là, c'est la nature, c'est trop beau, il faut qu'on arrive à garder des petits coins de nature sous cloche. Mais où, en fait, nous, ce qui est porté, c'est de dire cette zone humide, elle n'existe pas en tant que telle. Elle existe parce qu'en fait, elle est nécessaire à la survie, par exemple, des maraîchers dans la Drôme. Il y a énormément de maraîchers. Et notre survie en tant qu'humain, elle dépend de cette eau potable qui est filtrée par cet espace-là. Et donc, ça ne va plus être de reconnaître un espace fermé, mais de reconnaître l'interdépendance des espaces dans lesquels on vit. Et ça, c'est vachement intéressant dans l'évolution du droit en écologie, quoi.
Et ce qui viendrait mettre un peu fin, j'ai l'impression aussi, à cette question absurde de la compensation, où en fait, tu peux défoncer 10 hectares sur un bassin et il suffit qu'à quelques kilomètres de là, du moment que ce soit un peu sur le même bassin, tu dises « j'achète cette forêt et promis, j'y toucherai pas » et c'est bon. Enfin, c'est ce que j'avais compris en tout cas.
Tout à fait.
C'est ça. Ça, c'est le travail de vérification qui doit être fait, mais qui est très long à faire. Est-ce que les zones qui sont proposées par Pierre et Vacances pour compenser ont les mêmes fonctionnalités que celle de Roibon, quoi, celle du plateau des Chambarons. Et voilà, c'est long.
Au-delà du coup d'une expulsion juridique et on va dire d'une menace légale, est-ce qu'il y a d'autres... comment s'organise la vie sur la ZAD? Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué au quotidien? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres menaces à d'autres moments? Enfin voilà, est-ce que tu veux en parler?
Là, on est en train de sortir de l'hiver, ce qui fait vraiment du bien, parce que les hivers sont rudes à Roibon. Bon, il y a des gens qui parlent des terres froides. Nous, on aime bien dire qu'on habite au sud des terres froides, donc ça va.
On est toujours au sud de quelque chose.
C'est ça. Mais oui, la semaine qui vient de passer, là, on est passé sous la barre des moins 5 degrés. À la maison, on a une source d'eau pour avoir de l'eau potable et la source était gelée. Donc ça demande une logistique qui est quand même assez, assez intense. Moi, j'habite à la maison forestière, donc qui est une maison en dur, qui est une maison de l'ONF qui est squattée donc, depuis 3 ans. C'est le premier espace qui a été ouvert et occupé. Et il y a des copains et des copines qui sont sur zone, qui vivent dans leurs cabanes. Les cabanes évoluent et deviennent de plus en plus confortables, mais oui, l'hiver c'est dur, quoi. L'hiver c'est vraiment dur. Mais ça, en fait, on continue à construire. Il y a eu un chantier fin novembre, une semaine de chantier. parce qu'il y avait notre incendie annuel sur la zone. Et là, il s'agissait de la cabane Palette Palace, qui était une cabane de réunion qui avait été construite par plein de groupes autour qui se disaient « Ok, bon bah, à cet endroit-là, on va construire une cabane et puis on pourra se réunir. » Elle a été incendiée fin septembre. Donc on s'est dit qu'on allait faire une semaine de chantier pour reconstruire une cabane à un autre endroit qui s'est transformée en un mois de chantier. La cabane n'est toujours pas finie. Donc là, on continue à y aller petit à petit, à peu près une ou deux fois par semaine. Là, au moment où je vous parle, c'est la fin aussi du chantier Barricade qui a été organisé par les copains et copines de Barricade Nord. Ça s'active tout le temps. Ça s'active moins vite l'hiver, mais ça s'active tout le temps.
Et du coup, des barricades, des incendies, c'est des choses qui sont compliquées. Enfin, il y a des attaques, entre guillemets, desquelles il faut se défendre par rapport à ça. Enfin...
Ouais, nous, notre problème principal, c'est pas les flics. Même si ils font leur tour de temps en temps, ils font quand même pas trop les malins. Il y a aussi un camp militaire à côté et les militaires non plus font pas trop les malins. Ils viennent nous voir en mode « Excusez-moi, on va faire un entraînement dans la forêt d'à côté, soyez gentils, tenez vos chiens. » Bon, là, jusque-là, ça va. Après, oui, souvent, on entend parler... Enfin, nous, ce qu'on entend d'extérieur à propos de Roibon, c'est « Ah ouais, le contexte local, il est vraiment compliqué, c'est difficile. » Oui, c'est sûr que par rapport à Notre-Dame, avec je sais pas combien de pourcents de paysans qui sont à la conf et qui luttent depuis 40 ans, bah, par rapport à ça, oui, nous, la situation locale, elle est difficile. Mais ceci dit, avec les gens qui habitent à côté, globalement, on s'entend bien et on apprend à se connaître. Mais de toute façon, tu débarques n'importe où à la campagne, il te faut des années pour connaître les gens. Mmh. Et il y a juste une bande de petits malins qui ont décidé qu'ils allaient venir s'éclater sur la ZAD et péter des trucs et faire peur. Ça dure depuis cet été. Enfin, ça s'est intensifié depuis cet été.
Est-ce que vous savez qui c'est et pourquoi ?
Oui, on sait qui c'est des gamins du coin. Enfin, on peut même les croiser au bar tabac en allant chercher des clopes. Ce qui crée des situations un peu étranges parfois. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Bah, en fait, quand t'es jeune à la campagne et qu'en fait t'as rien à côté, ils s'ennuient. Je crois qu'il y en a un peu moins de la moitié qui sont au chômage. Et en fait, si c'était pas nous, si c'était pas sur la ZAD, en fait, ils iraient faire chier les gamins du village d'à côté. Ils iraient se foutre sur la gueule avec les gamins du village d'à côté. Et ils viennent visiter la ZAD, mais comme en ville, on va aller visiter un hôpital abandonné pour se faire peur, pour machin. Et en fait, on s'est aussi rendu compte, en en parlant autour de nous et avec les personnes qui sont autour, qu'il n'y a pas du tout que nous qui sommes visés, en fait. Il y a des gens qui se font péter leur pare-brise parce qu'en fait, eux, ils ont des camions. Et du coup, ah ouais, ça doit être, je sais pas, ça doit être des travelers, des trucs comme ça. Enfin, tout ce qui peut signifier une espèce de différence. Et ce qu'on essaye de faire en ce moment, justement, c'est de sortir du zadocentrisme en disant « Ah ouais, ils viennent faire chier à la ZAD ». Et bah, du coup, on nous répond « Bah oui, mais vous aussi, vous faites chier à la ZAD ». Mais non, c'est pas du tout ça. Ça, c'est des gamins qui, en fait, veulent faire mal, en fait, veulent rejeter la différence, qui savent pas non plus comment aller voir les personnes qui sont différentes. Voilà.
Okay.
Mais ça existe dans tous les villages, en fait.
Malheureusement, on leur tourne un peu. Est-ce qu'on peut simplement donc rappeler un peu aujourd'hui l'actu des ZAD et comment éventuellement il y a une stratégie de l'État sur l'une, l'autre et du coup peut-être Roibon, enfin voilà, les perspectives.
Peut-être juste pour compléter, quelle évolution tu notes à Roibon par rapport à l'actualité de Notre-Dame-des-Landes? Est-ce que ça a impacté ou pas?
Et de Bure.
Et de Bure, bien sûr.
Je réfléchis un peu à la façon dont je peux tourner ça, parce que c'est très, 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 très dense. Enfin, nous, on pense énormément à eux, à elles, à Notre-Dame, à Bure, à d'autres lieux aussi, qui sont en train d'essayer de se constituer malgré tout. Je pense aux copains de la Masada qui se sont fait prendre à 6h du matin, comme si c'était des terroristes dans leur lit.
Donc la Masada en Aveyron.
En Aveyron.
La lutte contre les éoliennes.
Ouais. Et où c'est pas une occupation à proprement parler, mais où il y a beaucoup d'effervescence. La stratégie du gouvernement, pour l'instant, c'est de dire on attend une décision de justice et après on expulse. Et ça, c'est ce qui s'est passé, même si personne s'y attendait, c'est ce qui s'est passé pour Bure la semaine dernière. En fait, la décision du tribunal datait de l'année dernière et où le bois était expulsable à tout moment. Et où ben, c'est tombé comme ça. Alors je crois qu'ils l'ont expliqué en disant oui, il y avait un gros week-end de rassemblement pour renforcer les barricades. Alors du coup, nous, on est intervenus avant. Et du coup, pour Roibon, finalement, c'est plutôt tranquillisant. Et Gérard Collomb, là, le sinistre de l'intérieur, en a rajouté une couche en disant on attendra les décisions de justice pour expulser Roibon. Donc par décision de justice, je ne sais pas du tout ce qu'il entend. Est-ce que c'est le procès au Conseil d'État qui devrait arriver d'ici un mois, deux mois, trois mois? Est-ce que c'est la fin de toutes les péripéties juridiques? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous laisse un peu plus de temps que ce qu'on s'est dit jeudi soir en disant « Oula, ok, on vire toutes les affaires et puis on est prêt et prête. » Voilà. Et c'est aussi... ce qu'on commence à se dire, c'est que ça peut aussi peut-être être une page qui se tourne de... Ben, Notre-Dame est en train de se légaliser, normaliser malgré tout. Et les grosses fractures au sein du mouvement réapparaissent. À Bure, je ne sais pas trop ce qu'il est. L'ont prévu, l'idée c'était peut-être d'essayer de réoccuper le bois ce week-end, qui finalement ça ne s'est pas fait. Voilà, j'ai pas d'infos fraîches. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de déclaration fraîche. À Roibon, à un moment, on sera expulsé. Et ça dépend des personnes. Mais en fait, il y a beaucoup de gens chez nous qui se disent « Ben, moi, je reste tant que Pierre et Vacances peut construire. Mais le jour où on dit à Pierre et Vacances qu'ils ne peuvent pas construire, et ben, moi, je m'en vais. » En même temps, c'est tellement dur de vivre dans la forêt. Tout le monde n'a pas envie de cette vie-là. Pardon, je me dépêche. Et du coup, il va falloir inventer d'autres manières de lutter aussi si les occupations sont plus possibles parce qu'on se fait virer légalement et puis qu'après ce sera des expulsions illégales. Faut inventer des nouvelles manières de lutter, d'occuper, de vivre. Du coup, c'est plutôt enthousiasmant aussi en fait. Enfin, peut-être que les aides c'est fini, j'en sais rien, mais en tout cas, on va aussi vers d'autres formes d'occupation et de lutte.
Super, ben merci en tout cas d'être venu avec nous faire un petit point sur cette question, sur ces questions. Est-ce que simplement pour terminer, il y a un rendez-vous, un prochain rendez-vous, une prochaine date sur laquelle tu as envie de nous inviter les auditeurs?
Eh ben, on fait une grosse avec nos copains et copines qui luttent au Rousset, donc vers Mâcon et à Poligny, dans le Jura, contre la construction d'autres Center Park. On organise une grosse tournée d'infotour en avril. Donc on sera à Grenoble le 8 avril. Et on fait des gros stuff tous les week-ends sur les différents lieux de lutte. Et à Roibon, ce sera le 28 avril. On fait une grosse journée, grosse fête, et ça sera trop bien.
Super. 8 avril à Grenoble, 28 avril à Roibon. Bah, merci beaucoup. On s'écoute du coup une petite chanson. Je crois que c'était toi, Kenja, qui nous parlait d'un morceau. Voilà.
Voilà, je dis au revoir à Grenoble, en fait, pour un petit moment peut-être. Et voilà, donc je voulais vous faire un petit coucou avec mon frère Kali. Qui est Rastaman de Martinique, qui avait représenté la France à l'Eurovision, etc. Et un morceau qui s'appelle Racine, qui parle un peu de là d'où je viens. Et puis de la difficulté de vous quitter. Voilà.
Merci Kenja et encore
j'espère
merci à Anne.
On sera toujours... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé la parole.
Je disais juste merci à Anne d'être venue. Voilà.
Oui, vas-y. Et à Kenja, ben, j'espère qu'on aura des nouvelles de d'où tu vas.
Oui, oui, oui. Il paraît que vous m'envoyez en mission...
En envoyé spécial de micro-ondes.
Oui, il y a une actualité qui est en train de se monter là-bas et je pense qu'on aura des échanges réguliers.
Super.
Racine à peine en tête, moi. Vini, j'y cambou, douette, moi. Enchanté, l'amour. Tiens, moi, j'accasserai. Racine à peine en tête, moi. Glou, quand monter, dansier, moi. Enchanté, l'amour. Fini, mon bout doit être moins. S'il faut moins chanter.
Avant, c'était vrai.
Plairé en cri, plairé.
deti man mai kamo Nou ka fe wan pa we yo Ni mon ka soufè Ni dot ka pranpye yo Racine la vi an tèt mwen Lan mizik an bout dwèt mwen Se tan kou l'espoi Kabat adan kye mwen Si fou mwen chante Ouè Kriyan se kriye
On est toujours en direct pour l'émission Micro-ondes sur Radio Kaléidoscope 97 FM. On va retrouver notre petite chronique qu'on retrouve désormais à chaque émission, les mots qui vous changent. On va écouter ça tout de suite et on se retrouve juste après.
Les mots qui nous changent. Et pas n'importe quel mot, puisque ce sont les mots, les concepts, les théories qui nous ont marqués, accompagnés, parfois même révélés, nous, des femmes, des meufs, des gouines, des trans, dans notre parcours d'émancipation et d'autonomie. Des mots qui nous ont aidés à choisir, à décider, à agir. Les mots qui nous changent, c'est donc la rubrique de vulgarisation théorique où l'on se raconte comment la théorie traverse nos vies, jamais très loin de nos expériences, juste assez pour qu'on puisse la bricoler à notre sauce.
Baba is calling you, Baba. Alors moi je m'appelle Laure et je dirais que je me définis comme femme et femme. En fait dans la définition stricte ça veut dire une lesbienne féminine. Mais moi je me définis pas comme lesbienne, enfin je suis pansexuelle ou bisexuelle. Enfin pansexuelle c'est genre t'y es attirée par... Tu t'en fiches des genres des personnes, en fait. C'est genre la personne que tu rencontres, si elle te plaît, tu sors avec elle, quoi. Et enfin, voilà, là, je me définis comme ça. Et pour moi, bah, femme, c'est un truc qui va résonner en toi et qui va faire partie de ton parcours d'émancipation, en fait. Et du coup, un mot que j'ai rencontré récemment, au final... et qui fait un peu penser à de la féminité, mais pas forcément. C'est le mot salope, et en fait, quand je l'ai rencontré, ça m'a fait du bien, dans le sens où je l'avais jamais vu sous cet aspect-là. Et en gros, pour moi, on est comme ça, à des moments, on joue de ça, du coup, je le rencontre comme ça. Et après, je l'ai rencontré dans des textes un peu plus tard, mais à la base, c'était plus une espèce de posture qu'on jouait à être slutty, et en fait, on dit pas trop en français... être salope, enfin, ou alors c'est vachement plus connoté négativement et tout. Enfin, pour moi, c'est intéressant parce que ça vient aussi replacer des trucs de féminité et jouer de ces codes-là de féminité dans un truc émancipateur. Et pour moi, slutty, ça veut dire... C'est marrant parce que presque, j'ai pas la même définition quand je le dis en anglais qu'en français, vu qu'on a des constructions super différentes. En anglais... ça renvoie à un truc un peu, bah voilà, jouer de la féminité et un truc un peu malin. Et une personne un peu maligne et ouais, je sais pas. Moi, c'est un peu ma représentation du mot. Donc, je l'ai rencontré en premier dans les faits, quoi. Avec des amis ou juste on jouait à être slutty, on pourrait dire. Et après, je l'ai rencontré dans un texte. Mais je me rappelle plus exactement ce que ça raconte. C'était dans l'éthique de la salope. The Ethical Slut, ouais, c'est ça. Et, mais voilà, bref, ça parle plus du polyamour et tout, mais à un moment, ça parlait de ce terme-là et des distinctions en français et en anglais qui pouvait y avoir et qu'on n'avait pas la même représentation et qu'en français, on va moins revendiquer ce terme-là ou cette étiquette-là ou cette identité ou cette posture, je sais pas comment l'appeler. Pour moi, c'est plus une posture quoi qu'une identité ou quoi, et qui peut coller à plein d'identités différentes en fait. Et c'est un truc que je relis vachement aussi au queer. En fait, avec cette posture-là, tu peux vachement troubler le genre justement, enfin. moi, en fait, ça m'attristait de pas me reconnaître dans des figures féminines intéressantes, on va dire. Et au sens politique, quoi, au sens de... J'ai envie de les porter politiquement, ces figures-là, quoi. Je trouvais pas de figures féminines qui m'intéressaient, ou voilà, que j'avais envie de m'identifier à elles et tout. Et du coup, par ce terme-là, j'en ai rencontré un peu plus. Enfin, ça m'a plus parlé, quoi. Je me suis dit, ah, mais ouais... Mais oui, enfin, quoi. Enfin, il y a des modèles qui replacent la féminité au centre, disons. Pas au centre, mais voilà. Ou du moins, c'est important, on joue de ça, quoi. Mais c'est aussi basé beaucoup sur le jeu. C'est pour ça que j'y vois un peu un truc de... un peu maligne, enfin, tu vois. Et puis que aussi, bah voilà, y a la misogynie, ça existe, enfin, partout, quoi. Autant parfois même dans les milieux féministes, en fait, que dans le monde extérieur, en fait, la société, même si dans la société, les personnages féminins, les personnages féminins médiatisés sont justement dans un truc d'ultra-féminité ou de jouer de ça, mais que c'est pas du tout subversif, quoi. Et que slutty, ben, pour moi, ça renvoie à... on joue de la féminité, mais dans un truc subversif. Et je pense que c'était un peu un soulagement. Puis pour plein de raisons, en vrai, je pourrais en parler longtemps, je crois, de ce mot. Mais aussi que du coup, ça parle du corps et de la sexualité. Enfin, ça a à voir à ça, en tout cas. Salope, même au sens premier du terme, ça a à voir à ça. Bamba is calling you. Moi, j'aime bien l'idée qu'on arrête d'avoir un rapport coincé à la sexualité et tout, et que si on parlait plus de nos relations sexuelles, ou peut-être qu'il y aurait moins de problèmes de consentement ou de viol et tout, parce qu'au final, les viols, c'est surtout avec les personnes qu'on connaît bien, donc si en fait on en parlait plus, et ben, enfin, je sais pas, ça me renvoie un peu à ça, quoi. Calling you, Bamba.
Et on se retrouve pour la dernière partie d'émission, pour cette émission micro-ondes sur Radio Kaléidoscope 97 FM, toujours. Alors, il y a un appel qui était pour nous très important de relayer. On va vous le lire tout de suite. Appel à rassemblement le 13 mars pour dire non au concert de Bertrand Cantat. Les 13 et 14 mars 2018, Bertrand Cantat sera en concert à la Belle Électrique à Grenoble. Il nous est impensable de ne pas réagir face à ce choix de programmation. De plus, l'histoire de ce chanteur nous semble emblématique et donc une bonne occasion de revenir sur la notion de justice et sur la manière dont notre société se comporte face aux violences faites aux femmes.
Pour ceux et celles qui pensent que le meurtre de Marie Trintignant n'était qu'un accident, une erreur de parcours.
Revenons sur les faits. Dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, Bertrand Cantat assène 19 coups violents à sa compagne, Marie Trintignant. Malgré l'hémorragie et le coma qui s'ensuivent, il la laisse sans secours pendant plusieurs heures. Elle décède le 1er août à l'hôpital. Il ne s'agit pas là d'un pétage de plomb, d'un événement isolé. Au contraire, cet acte s'inscrit dans les mécanismes de la violence conjugale, aujourd'hui bien connus. L'idée du pétage de plomb, dans les cas de crimes conjugaux ou féminicides, est d'ailleurs largement relayée dans les médias qui décrivent ces faits divers comme des crimes passionnels, n'explicitant que très rarement le contexte de violence conjugale dans lesquels ils s'inscrivent. Cela commence par une emprise psychologique, contrôle, isolement, destruction de la confiance en soi de la victime, et peut aller jusqu'au coup, parfois mortel. Ces mécanismes permettent aux auteurs d'obtenir le contrôle sur leur partenaire, et quand ils ont le sentiment que ce contrôle leur échappe, ils intensifient les violences. Ces mécanismes ne se construisent pas à deux, vision des choses où les membres du couple seraient à égalité responsables. D'ailleurs, les violences apparaissent souvent dans plusieurs relations de leur auteur. Nous savons aujourd'hui que Bertrand Cantat a un long passé de violence envers ses compagnes et les femmes de son entourage. Au-delà du meurtre de Marie Trintignant, il s'agit bien d'un schéma qui se répète. Peu à peu, des informations sortent malgré l'omerta qui règne autour du chanteur. Tout d'abord, le message poignant laissé par Christina Radi, femme du chanteur avec qui il se réinstalle lors de sa liberté conditionnelle en 2007, sur le répondeur de ses parents, qui dénonce les violences qu'elle subit, et ce, 6 mois avant de se suicider. Le travail d'Anne-Sophie Jeanne, qui met en lumière les fonctionnements violents du chanteur qu'elle fait remonter jusqu'aux années 80, ainsi que la main courante pour harcèlement déposée récemment par une autre femme.
Pour ceux et celles qui pensent qu'il a purgé sa peine.
Condamné à 8 ans de prison, il est relâché au bout de 3 ans et demi. Bertrand Cantat a en effet purgé sa peine, aux yeux de la justice. Il nous semble néanmoins nécessaire de revenir sur le système judiciaire qui a prononcé cette peine. Le travail de nombreuses militantes féministes a permis une évolution du traitement judiciaire des violences faites aux femmes. Mais vu les faibles pourcentages de dépôts de plaintes, de condamnations et les peines souvent minimes en comparaison à d'autres crimes ou délits, sans parler des récidives, nous avons du mal à y voir une réponse adaptée et suffisante. De plus, notre système judiciaire n'existe pas en dehors des inégalités de classe, race et sexe qui structurent la société. Au contraire, il les reproduit. Comment oublier en effet le traitement de Jacqueline Sauvage, qui pour avoir tué son conjoint violent, a écopé de 10 ans de prison en première instance, puis en appel. De plus, on le sait, les prisons sont surtout remplies de personnes des classes les plus pauvres, et donc souvent racisées, pour des crimes et délits en lien avec leur situation économique qui ont peu d'opportunités offertes par cette société. Et contrairement à Bertrand Cantat, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un avocat de renom qui mettra l'affaire dans ses priorités, et ainsi d'écoper d'une peine très faible, puis être transféré au bout de 6 mois en France et bénéficier des remises de peine. Nous ne voulons pas dire qu'il aurait dû faire plus de prison. Nous souhaitons juste souligner l'injustice de la justice. Pour nous, la prison n'est pas une solution adaptée. C'est une punition décidée par l'État qui n'offre pas de vraie réparation aux victimes, ne responsabilise pas les auteurs de violences et ne change rien à leur comportement. Bien sûr, elle permet aux rares femmes qui arrivent au bout de ce parcours de la combattante de pouvoir reconstruire leur vie en sécurité pendant un temps, mais quand le condamné sort de prison, ni elle, ni les futures compagnes de celui-ci ne sont à l'abri. Le cas de Bertrand Cantat démontre cela parfaitement.
Et il pourrait reprendre le cours de son existence.
La prison voudrait donc dire l'absolution. Oubli et pardon, on fait comme si rien n'était arrivé. Et que se passe-t-il pour ceux qui s'en sortent parce qu'il y a prescription, parce que la procédure ne va pas au bout, ou pour toutes les autres raisons qui font que les auteurs de violences ne sont souvent pas condamnés? Et que penser de ce père de famille condamné à 18 mois de prison avec sursis pour les viols qu'il a commis sur sa fille de ses 9 ans à ses 15 ans? Bah c'est bon, la justice a tranché. Peut-être il joue bien de la guitare et on pourrait l'inviter à se produire à la fête du quartier, ou à la fête de l'école, tiens. En duo avec Bertrand Cantat, peut-être. Sans doute pas. On voit l'hypocrisie de ce pseudo-discours sur la réinsertion. Mais ses fans ne se cacheraient-ils et elles pas derrière pour pouvoir continuer à l'aduler sans mauvaise conscience? Étonnamment, ce vrai problème est soulevé dans le cas du chanteur, mais beaucoup moins pour toutes les personnes qui sont incarcérées pour des faits bien moins graves et souvent liés aux injustices économico-sociales comme nous l'avons vu. Pourtant, ces personnes-là, elles, vivent vraiment la stigmatisation qui est le corollaire de leur peine de prison et ont du mal à décrocher les boulots même les moins valorisés. Il semblerait que la prison salisse certaines et certains et en blanchisse d'autres. Peut-être qu'on ne s'intéresse à cette question que quand reprendre une vie normale consiste à être sous les spotlights avec l'argent et les fans qui vont avec.
Mais alors qu'est-ce qu'on voudrait qu'il fasse ?
Ce que nous attendons de quelqu'un comme Bertrand Cantat est avant tout qu'il agisse avec responsabilité et décence. Ce qui veut dire, par exemple, mettre la réparation et le bien-être des autres avant le sien et penser aux victimes, si elles sont encore vivantes, à leurs proches et à toutes les femmes qui ont subi des violences. C'est pour cela que nous trouvons inacceptable que Bertrand Cantat ait repris une vie publique, qu'il sorte un album, qui plus est intitulé « Amor Fati », l'amour du destin ou accepter son destin, monte sur scène pour se faire acclamer, apparaisse en couverture des Un Rock. Au cours de l'interview complaisante publiée par le magazine, il explique comment ce qui lui est arrivé était dur et qu'il devait prendre des médicaments pour s'en remettre, qu'il avait même pensé au suicide, etc. Les larmes nous montent. Mais non, il ne s'agit pas de quelque chose qui lui est arrivé. Il en est responsable, il a agi et tué. Mais cette victimisation indécente d'un agresseur ne nous étonne pas. C'est un phénomène très courant dans ce genre de cas. On ne lui demande pas d'aller habiter sur une île déserte, mais oui qu'il se mette en retrait. C'est un artiste de talent ? Très bien. Libre à lui de composer pour d'autres et de faire de la musique avec ses amis. Accorder plus de temps à des soins psychologiques pourrait aussi être une bonne idée, mais pour qu'il soit générateur de changement, encore faut-il être conscient de ses problèmes et en prendre l'entière responsabilité.
Deux poids, deux mesures, qui a le droit à la notoriété et au pardon ?
Des événements médiatiques récents nous montrent les inégalités de traitement quant à qui peut garder une place publique ou pas. Le 9 février dernier, Aurel San est consacré par 3 victoires de la musique. Comment oublier ces paroles et leur violence sexiste exacerbée, comme dans sa chanson au titre poétique « Sale pute », dont nous ne citerons ici que le très à propos « Je te collerai contre un radiateur en te chantant Tostaki », ou encore celle de Saint-Valentin « Mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie Trintignée ». On voit au passage comment les références aux actes de Bertrand Cantat sont utilisées pour participer au climat de terrorisation des femmes. Mais voilà, pas de problème pour le rappeur blanc. Sa condamnation,
sur plainte d'associations féministes pour provocation à la violence envers les femmes, a été cassée par la cour d'appel au nom de la liberté d'expression. Et on pourrait parier qu'elle n'aurait pas changé grand-chose de toute façon, parce qu'après avoir payé les 1000 euros de sa condamnation initiale, il aurait lui aussi réglé sa dette. Et puis c'était il y a longtemps. Mais la liberté d'expression, ce n'est pas pour tout le monde, et le bénéfice du temps qui passe non plus. Le 3 février dernier, au miracle, une jeune femme voilée, Ménel, fait son entrée sur le plateau de l'émission de télécrochet de TF1, The Voice. On y a presque cru. Enfin, une personne faisant partie de ce qui est sans doute la population la plus discriminée et stigmatisée en France, au croisé du sexisme et de l'islamophobie, a accès au spotlight. Mais notre joie fut de courte durée. Très vite, de vieux tweeters de la candidate sont déterrés par la fachosphère, on ne sait pas comment, et comme toujours, sont relayés par les médias dominants. Montés en épingle, ces messages sont lus comme des apologies du terrorisme. Là, pas besoin de jugement. Malgré ses excuses, après une polémique d'un niveau pathétique, rempli d'amalgame et d'islamophobie écœurante, Ménel se retire de l'émission. Pendant ce temps, malgré la libération de la parole des femmes grâce à MeToo et Balance ton porc, des hommes politiques accusés de violences sexistes diverses restent bien en place.
Et les fans dans tout ça ?
Eh oui, Bertrand Cantat a beaucoup de fans. Voix rock est engagée de toute une génération, dont nous, avec Noir Désir, il chantait tout haut ce qu'on rêvait d'entendre et cassait ainsi la pensée unique présente dans la plupart des médias. Le beau gosse de la gauche est devenu un porte-parole, un symbole. Et oui, ça aurait été tellement plus facile si c'était un vieux type moche de droite. Les organisations de gauche auraient alors sans doute eu moins de mal à condamner son retour sur scène. Vouloir oublier ses actes et le maintenir sur son piédestal, aller l'acclamer sur scène, acheter ses disques, nourrir sa notoriété, ne font que renforcer sa position d'intouchable. L'omerta autour de lui reste encore à détruire. Et plus il aura du pouvoir, plus ce sera difficile pour ses victimes et les témoins de parler. Personne ne veut être le ou la méchante qui ternit l'image de l'idole rebelle et devrait en payer le prix. Décrédibilisation, attaque personnelle, procès. Cantat semble assez friand des procès pour diffamation envers celles et ceux qui l'attaquent. Heureusement, il en perd. Si vous avez vos billets, déchirez-les et rejoignez-nous. Soyons nombreux et nombreuses le 13 mars devant la Belle Électrique pour manifester notre ras-le-bol et notre colère face aux violences faites aux femmes. Voilà, on peut aussi parler d'une pétition qui a été lancée par des féministes grenobloises, qui est sur change.org. Vous pourrez trouver le lien, on va le mettre sur notre Facebook et aussi sur différents sites dont on a parlé tout à l'heure, les sites comme CRIC, le Tamis, etc., les sites locaux. Et là, maintenant, on va passer à l'agenda avec le reste des rendez-vous pour la semaine qui vient.
Voilà, donc le premier...
Alors, non, c'est pas le premier, ça va venir. D'abord, on va parler du festival Les Dérangeantes, qui est un festival de films féministes, qui est notamment organisé par le Planning Familial, qui a déjà commencé là et qui dure jusqu'au 30 mars, où notamment il y a le film Ouvrir la voie d'Amandine Gay, qui était déjà passé à Grenoble, qui est rediffusé. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est vraiment l'occasion d'y aller. Voilà, donc vous pouvez trouver les infos sur... le site des Dérangeantes, et c'est dans différents quartiers de Grenoble. Un autre festival en ce moment, c'est le festival Vue d'en face, qui est le festival de cinéma LGBT de Grenoble. Et du coup, ça, c'est du 2 au 16 mars. C'est pareil, vous trouverez toutes les informations sur le net. Et enfin, Yvon, je te passe la parole pour le mardi 6 mars. Du
Effectivement, mardi 6 mars, je vous rappelle, pour les auditeurs fidèles, qu'on a consacré une pleine émission en février sur la lutte des habitants de l'Arlequin contre la démolition de l'immeuble au 10 et au 20. Or, Virgile, qui était présent, un représentant des locataires de l'association des résidents de l'Arlequin, est lui-même menacé d'expulsion par son bailleur, c'est-à-dire SIC Habitat, pour, tenez-vous bien, un retard d'un mois de loyer. Donc, on sait bien que c'est un prétexte pour intimider son action et pour la sienne et celle des autres, pour les droits des habitants de la Villeneuve, et c'est une manière d'échange, d'essayer de vider son immeuble, et ça a commencé, et pour les démolir plus facilement, nonobstant l'opposition des habitants. Donc, le procès se tient le 6, c'est-à-dire mardi, à 9h, au tribunal d'instance. Et puis, la deuxième chose, c'est simplement, vendredi, on invite tout le monde à venir à... tous ceux qui veulent à la... Comment s'appelle Engrenage, merci. Ce qui est au 27, rue Jean Prévost. C'est une soirée, un concert de soutien au patio dont nous vous avons parlé et dont nous reparlerons dimanche prochain.
Et donc le 6 mars toujours, à 18h, comme chaque premier mardi du mois, au local autogéré qui se trouve rue Pierre-Dupont à Grenoble, il y a la revue de presse contre les frontières. Et à 20h, à la maison des associations 6 rue Berthe de Boissieu, il y a une projection d'un film qui s'appelle, alors là je vais très mal prononcer, Sur la route d'Exarchéa. Voilà, qui est le récit d'un convoi solidaire en utopie, ça s'appelle, et qui est organisé par le collectif Grèce Austérité de Grenoble, avec la réalisatrice qui sera là, Héloïse Lebourg. Voilà, c'est par rapport au mouvement social grec et à la situation des réfugiés là-bas, et voilà, comment se créer des solidarités par rapport à ça. Ensuite, on arrive au jeudi 8 mars, donc le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, et il y aura la manifestation traditionnelle qui commencera à 15h40, donc il y a aussi une grève ce jour-là. Et à 15h40, le rendez-vous est devant l'hôpital tristement nommé Couple Enfant à la Tronche. Et la manifestation ira jusqu'à Félix Poula. Ensuite, le vendredi 9, donc, il y a la soirée à l'engrenage, comme Yvon nous en a parlé. Il y a aussi une projection débat autour du film La saison des femmes de Lina Yadav à l'espace Victor Schlöcher, 89 avenue de Grenoble à Cessin. C'est autour de 4 femmes dans l'Inde rurale, voilà, qui parlent de leurs conditions de femmes là-bas. Ensuite, le samedi 10 mars, il y a les portes ouvertes d'un nouveau garage associatif qui s'appelle les Soupapes, qui a cette spécificité que tous les mécanos sont des mécaniciennes. Et voilà, donc elle vous invite à venir les rencontrer et voir un peu comment ça va fonctionner ce garage qui se trouve 8 rue Guy Moquet à Fontaine. 10 mars toujours, à 15h, il y a une manifestation à l'appel d'AYAC, Association iséroise des Amis des Kurdes. Et du coup, cette manifestation qui partira de Félix Poula a pour titre Stop Erdogan. Et ensuite, qu'avons-nous ?
Le 17 mars.
Alors, le 17 mars, il y a deux choses dont on va vous parler. On en reparlera aussi lors de la prochaine émission. Donc, il y a cette fameuse manifestation dont on a déjà parlé à Paris, la Marche des Solidarités. Et il y a un bus qui part de Grenoble. Je ne sais pas s'il reste encore des places.
Je crois qu'il en reste encore quelques-unes. Il faut se dépêcher. Il faut appeler le CIP, C-I-P, à la Maison des Associations pour réserver et payer votre place. Voilà, c'est très important d'être nombreux.
Et si vous n'avez pas le temps ou la possibilité d'aller à Paris, eh ben, ne vous inquiétez pas, à Grenoble, le 17 mars, il y aura aussi de quoi s'occuper, puisqu'à partir de 14h au 6 Ruger, il y a une journée qui s'appelle « Face à la prison, femmes et minorisées de genre, regards croisés, vécu et lutte ». Voilà, à 14h30, il y aura la projection d'un film qui s'appelle « Ils nous ont volé nos nuits », pardon, qui donne la parole à d'ex-prisonnières, à des compagnes, à des filles de prisonniers et prisonnières au Mexique. Et ce sera suivi d'une discussion autour de ces thèmes-là et d'un repas.
Et je crois qu'on va être obligé de vous quitter.
Tout à fait.
Pense.
Et on se retrouve la semaine prochaine, donc le dimanche 11 mars, avec des invités du Patio Solidaire. Et on vous souhaite un bon dimanche.
Et à dimanche prochain.
À bientôt.
À bientôt.